de me faire admonestation, à mi-chemin, entre exhortation et puis répréhension. Ça, c'est ma manière d'utiliser les termes. je n'ai pas vérifié dans un missionnaire fiable, comme en général le petit Robert, pas toujours, hein, aucun missionnaire n'est parfait non plus. si c'est le sens admis.
J'ai un petit problème avec l'exclusion mineure. Un chrétien baptisé de profession de sa foi, mais qui ne peut pas être membre de notre Église pour différentes raisons de divergence de conviction spirituelle, s'il vient dans l'église le dimanche matin, nous l'invitons à prendre la scène avec nous.
Oui, c'est ce que je fais aussi. Oui.
Alors, un chrétien de l'église, un membre de l'église, qui a commis une faute, nous lui interdirons de prendre la scène. Alors qu'au fond, il y a beaucoup plus de communion entre lui malgré sa faute. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'avec l'autre, avec qu'il y a un éloignement du fait de convictions différentes.
Cette position n'était pas juste.
Bien, je réponds.
Je
veux dire quelque chose. Donc,
justement, à cette question, est-ce que cette exclusion mineure, si vous voulez, de la Sainte Cène, n'est pas plutôt une mesure pour amener le frère à la repentance? Mais si vraiment il se repentit sincèrement, excusez-moi, repentit sincèrement, il a montré par sa vie qu'il a changé, il a reconnu sa faute. Je pense qu'il n'y a pas lieu de l'exclure encore de la Sainte Cène. Sinon, c'est une punition.
Alors là, bien sûr, tout à fait d'accord.
S'il manque de la repentance, c'est que nous voulons l'amener à la repentance. Il voit quand même qu'ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas être solidaires avec son attitude. C'est quand même plus grave que quelqu'un qui vient comme ça de notre église et qui, dont nous ne connaissons pas la vie. Hein. Parce que là, nous sommes responsables parce que nous connaissons cette personne.
C'est ça, pour moi, la différence entre les deux cas que vous avez évoqués, le cas de la personne du dehors qui n'est pas membre, que nous accueillons, et le cas de la personne sous discipline dans notre église que nous n'accueillons pas, me semble double. Un élément, c'est celui de notre responsabilité. En un sens, quand j'invite ceux du dehors par rapport à l'église locale qui sont là, présents, à participer à la Sainte Cène, je le fais à la faveur de la non-responsabilité où je me sens à son égard. Ils ne sont pas placés sous l'autorité spirituelle que je partage avec les autres anciens de l'Église. Donc, il prend la scène sous sa propre responsabilité, en quelque sorte. Ce qui n'est pas le cas pour les membres de l'Église même. Donc, je suis. Et ça, c'est la première différence. Et la deuxième, alors, concerne la finalité pédagogique de la prise de la scène quand il s'agit donc d'une mise sous discipline, excommunication mineure au sein de l'Église. C'est vraiment avec le but de faire réfléchir la personne, de la secouer un bon coup pour qu'elle se rende compte que c'est sérieux. Et cela ne peut pas jouer avec quelqu'un de l'extérieur, qui n'est pas suivi par nous, qui a une différence de doctrine, parce qu'on l'a enseigné comme ça, sur la question du baptême par exemple. C'est deux différences qui font que, malgré ce que vous avez dit, je persiste à avoir ces deux positions.
Et aussi la notion de sincérité, la personne chrétienne qui vient de l'extérieur, je le pense sincère, je ne le connais pas, je ne peux pas juger. Donc, à la faveur de sa sincérité supposée, je l'accueille. Tandis que le frère qui est dans une situation irrégulière, et à qui peut-être on demande de ne pas participer à la Sainte Cène, c'est parce qu'on sait qu'il n'a pas réglé ses affaires, donc il n'est pas sincère ni devant l'Église, ni devant Dieu en participant.
Oui, monsieur Bézachon.
Y a-t-il une différence de responsabilité en tant que responsable d'une Église entre un membre de l'Église ou quelqu'un qui vient régulièrement plus, mais qui n'est pas membre, et que peut-être. On n'est pas très au clair.
Oui, à mes yeux, je dirais, oui, il y a une différence, ce qui ne veut pas dire que la responsabilité à l'égard de, du non-membre, mais qui assiste fidèlement, soit nulle. Je pense que nous avons aussi une responsabilité. De fait, il s'est placé quand même, peu ou prou sous notre autorité spirituelle. Mais quand même la responsabilité est moindre, parce qu'il n'y a pas eu cet engagement.
Comme ça dit à ce sujet, comme notre frère a dit, certains milieux dans l'évangélique refusent la sainte-cène. Ceux qui sont non membres, qui sont de passage, à moins qu'ils aient une lettre de recommandation et une assemblée qui a les mêmes pensées. Ils se sentent eux responsables. Certains se sentent responsables de ces milieux.
Je crois qu'on peut dire qu'historiquement, notre XXe siècle est nettement plus ouvert que les siècles précédents. Et que la position très largement majoritaire, sinon exclusive, dans le baptisme en tout cas, avant donc le XXe siècle, c'était le baptisme strict qui excluait donc les non-membres, en tout cas non baptisés sur confession de foi, de la scène. Mais je pense que cette position est devenue très minoritaire. Elle existe encore, mais elle est devenue très minoritaire dans le baptisme évangélique de nos jours.
Pour revenir à ta question du membre ou non membre, est-ce que tu vas peut-être quand même considérer une personne, un cas particulier, une personne qui vient régulièrement, peut-être depuis des mois ou depuis une année, deux années, qui n'est pas membre et qui veut prendre aussi part à Saint-Seigne, carrément que nous ayons assez rapidement un entretien pur d'âme avec une telle personne pour connaître la personne, connaître la position, pourquoi elle veut devenir membre, pourquoi, parce qu'effectivement, sinon, il me semble pour moi, ce serait presque de ma part une négligence si je donnais la Saint-Seigne en pensant, ah, il n'est pas encore membre. Je suis actuellement, de temps en temps, avec vous aussi, parfois un conflit au niveau de la Sainte-Seine, parce que nous n'avons pas, n'existe pas d'arbitre ici. Pour eux, c'est plus facile parfois. Mais moi, je voudrais d'un côté, quand il y a la Sainte-Seine, nous l'avons une fois par mois, je voudrais ni tomber dans un extrême de mettre chaque fois le marteau, pendant 10 minutes d'exhorter au nom de Jésus, sinon c'est plus vraiment le repas de la joie, pardon, de la reconnaissance. Et puis parfois, de l'autre côté, quand je vois certaines personnes qui sont venues occasionnellement, mais qu'est-ce que je fais avec moi? Je ne veux pas vite aller courir pour dire, écoutez, vous ne prenez pas la Sainte-Seine. Et je crois qu'il faut donner une parole claire de la part de Dieu, mais laisse la liberté. Disons, ça c'est ce que je pense, Seigneur, que toi-même tu éclaires les gens, mais trouver le bon milieu, le bon l'équilibre. Ce n'est pas toujours facile, mais d'arriver après être intérieurement frustré, d'ailleurs leur sentiment, je n'étais pas tout à fait fidèle d'avoir bien parlé, bien averti, ou bien donné cette impression, cette repas de joie et de reconnaissance. Moi j'ai ce conflit parfois, étant donné que nous n'avons pas un système comme dans l'église d'Arbiste, où on reçoit uniquement les gens par recommandation, etc. Là c'est plus facile. Mais au niveau de la Sainte-Seine, parfois, c'est pas très facile. Comment est-ce qu'il faudrait là, agir?
Moi, j'éprouve cette tension aussi, hein, je ne la cache pas.
Mais est-ce que la Bible ne dit pas que chacun s'éprouve son
Oui. Oui, c'est aussi un élément qui pèse lourd dans le dossier, qui, je crois, moi, je me rappelle une discussion avec un darbiste, précisément, où c'est le texte que j'avançais pour expliquer notre ouverture, le fait que nous pouvons laisser à ceux qui nous rendent visite et qui professent la foi chrétienne, sous leur responsabilité, de prendre la scène.
Oui, dans ce sens, moi, il me semble que la personne, le chrétien qui vient d'une autre église que je ne connais pas, se retrouve dans la même situation que tous les chrétiens que je connais, entre guillemets. Dans la mesure où on a fait la différence tout à l'heure entre les fautes connues, publiques, et ce qui est dans notre cœur. Je crois que c'est là aussi ce qui est finalement. Je crois que c'est plutôt placer les chrétiens de façon effectivement explicite, devant leurs propres responsabilités. C'est pas une fuite devant mes responsabilités. Je crois que nous sommes responsables devant ce que nous savons, mais que chaque chrétien est premièrement, même avant moi, avant à moi en tant que responsable, lui-même responsable devant Dieu. Je crois que c'est ça.
C'est la priorité, mais qui ne n'efface pas, à mon avis, l'exercice d'une certaine responsabilité qui est limitée, comme tout ce qui est confié aux hommes, des anciens de l'Église à l'égard des membres de leur troupeau dont ils ont la garde. Moi, je n'emploie jamais au moment de la scène, je peux vous le signaler, la formule que beaucoup emploient pour accueillir tous en disant « c'est pas la table de l'Église, c'est la table du Seigneur ». Beaucoup l'emploient, moi je m'en abstiens, parce qu'il me semble que c'est une logique très suspecte. Ce n'est pas parce que c'est la table du Seigneur que les responsables de l'Église n'ont pas à veiller sur l'administration. On pourrait aussi bien dire c'est pas l'argent de l'Église, c'est l'argent du Seigneur, mais on va pas laisser n'importe qui ensuite s'en occuper, n'est-ce pas? Donc je n'emploie pas cette formule, je crains qu'elle suggère une logique dérapante. Voilà, c'est...
Pour la dire de la même façon, pour le saint baptême. Je dis le saint baptême parce qu'on vient de parler de la sainte serre. Vous nous entendre.
Non, mais je pense au contraire que le fait de dire que c'est la part du Seigneur donne plus de sainteté et de croix et de responsabilité à celui qui participe, à mes yeux. Donc c'est peut-être une question de langage pour vous, mais je trouve que si on m'invite à la table du Seigneur, là... à la table de l'Église, c'est peut-être moins important pour moi. Je me sens peut-être plus libre de parler de la table du Seigneur. Là, je me sens interpellé. C'est là. Moi, il m'est déjà arrivé d'utiliser ce terme.
Oui, on veut dire que
c'est responsabiliser les gens.
Que c'est la table du Seigneur, oui. Mais je ne le fais pas dans le sens de dire, alors, n'importe qui peut, sans que oui, les autorités de l'Église aient la moindre responsabilité à cet égard, le moindre droit de regard.
Pour le baptême, on n'admettra pas non plus n'importe qui.
J'ai une question tout à fait différente. Ce matin, vous avez parlé qu'il y a des mesures disciplinaires par rapport à celui qui s'appelle frère et qui vit dans le péché. Et puis par rapport, bien sûr, au monde. Si quelqu'un vient du monde, vient à l'église le dimanche matin, elle dira qu'il doit être beaucoup plus large. Mais parfois, nous avons projet. Disons, la difficulté de s'indiquer quand est-ce quand commence la discipline. Quand quelqu'un du monde, de l'extérieur, qui n'est pas converti, qui vient dimanche matin, encore une fois, il faut le dire, il y a des églises, des systèmes d'églises qui fonctionnent mieux, qui se prêtent mieux à la discipline parce qu'ils ont des soirées d'évangélisation, d'origine plutôt anglo-saxon, le soir, dimanche soir. Et là, alors, on invite les gens de l'extérieur. Or, le dimanche matin est plus réservé aux chrétiens convertis. Membres, si vous voulez même. Mais dans nos milieux-là, plusieurs églises, je pense, ont le même système. Nous recevons le dimanche matin, enfin, tout simplement aussi les gens, d'autres gens. Et alors, là, parfois, quand est-ce qu'on doit commencer la discipline? Quand est-ce qu'il faut tolérer? Quand est-ce qu'il faut... Voilà.
Là, tu parles de la discipline vestimentaire.
Je ne parle pas vestimentairement. Là, j'ai passé le dessus. Hein, parce que quand vous évangélisez parmi les gens, vraiment les plus dans la périphérie de la société, vous ne regardez plus tellement sur ça. Sinon, si vous commencez par ça, il y a des choses trop plus importantes. Oui. Mais je parle maintenant, non, pas ça, mais au niveau, j'en ai un cas concret. Nous avons eu un chœur à notre village, nous avons une ZUP et une grande maison, appelée Sonakora, où il y a les gens... célibataires, divorcés, qui habitent seuls, sans personne, qui ont plongé pour une grande partie dans la drogue ou l'alcool, sont dans le chômage, une grande partie, ou bien dans toutes sortes de vices sexuels. Cette maison commune, une quête d'abeilles, enfin, vraiment, et puis maintenant, Dieu a permis, bon, nous avons prié pour cette maison, et on a commencé à, un peu à travailler, et puis voilà, il y a maintenant des personnes qui viennent. Mais, je ne peux pas vous décrire, c'est pas facile. Des gens qui viennent de très loin. Puis il y a une personne qui a un certain âge, puis il n'y a jamais, en disant célibataire, 65 ans, et puis qu'il y a une autre, une dame, et puis les deux, en quelque sorte,
il y a une certaine sympathie, plus que ça. Avant qu'ils soient venus chez nous, ils ont vécu certaines choses. Et puis maintenant, n'est-ce pas, lui, il ne lit pas. La compréhension est très amoindrie. Elle, c'est tout à fait différent. Et dans ces cas-là, vous voyez, jusqu'où on doit... quand ils n'ont pas toute cette compréhension, elle a fait un pas vers Jésus. Je vois bien qu'il y a des choses à faire, n'est-ce pas, des choses à régler, tout ça. Et puis pas, alors, jusqu'où on doit les considérer tout simplement du genre de l'extérieur, laisser faire. Parce que nous, tant que nous ne pouvons pas accepter, par exemple, le mariage, quelqu'un leur a dit, écoutez, vous ne pouvez pas, parce qu'ils veulent quitter cette maison pour avoir un appartement. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir un appartement seul, vous n'êtes pas marié. Et puis là, donc, vous devez être marié. Et puis, une question à moi, hein, pour le mariage, vous le savez, hein, pour faire un tel mariage, question de maladie, tout ça, toutes sortes de choses, des éléments tout à fait difficiles. Alors, si je dis, écoutez, débrouillez-vous, hein, faites quelque part un mariage civil, j'ai une responsabilité. Je dirige. Si je dis rien, enfin, vous voyez, vous comprenez que ce n'est pas facile. Le plus facile serait qu'il ne vienne pas chez nous. Et c'est ça pour moi, après, je ne sais pas si vous connaissez un peu le même problème aussi chez vous, mais.
Et mon sentiment, c'est. Quand nous voyons que le Seigneur est à l'œuvre, qu'il y a un progrès, il ne faut vraiment pas détruire ce qui est là. Il faut suivre le Seigneur et ne pas projeter trop vite nos idées sur ce qui est juste. Même si nous le tirons de l'Écriture, c'est un travail si délicat que fait le Seigneur. Il faut surtout veiller à ne pas le gêner.
Et je me demande, concrètement, est-ce que c'est le dimanche matin qui est l'endroit normal et idéal pour exercer la discipline dans l'Église? Il me semblerait plutôt que ce serait un autre moment. Bon, bien sûr, elle est sous-jacente, mais elle n'était pas tellement évidente le dimanche matin, c'est plutôt un rayonnement ou un cercle de matin. J'imagine, je pense.
Oui, je pense que on connaît ce type d'expérience aussi difficile, et je crois que dans notre Église, il y a eu une position très saine. On a proposé vraiment à ces gens, quand ils venaient plusieurs fois à l'Église, de prendre contact chez eux et de faire des petites études bibliques à domicile, ce qui crée déjà notre image. Et je crois que c'est alors ça, ou l'étude biblique, ils la refusent, après ils ne viennent plus à l'Église. Donc c'est eux qui font le choix de plus revenir. Où tout doucement on peut les amener, et je crois que nous avons des cas vivants chez nous qui sont venus au Seigneur, d'abord la femme, et puis ensuite se sont mariés ensemble, enfin, mais pas encore à l'Église, pas encore, disons, devant le Seigneur, mais déjà ont réglé leur vie sur un plan humain, se rendu compte, et puis maintenant le mari aussi est au Seigneur. C'est encore tout fragile, hein, c'est comme un croquis qui sort là, qui... mais c'est vrai, et si maintenant on peut se permettre, je le sais parce qu'ils viennent souvent aux études publiques chez moi aussi, de faire certaines remarques, des fois aussi un peu sur la tenue vestimentaire maintenant de la femme, qui est une jeune femme, hein, une jeune fille qui aimait un peu le modernisme, hein, un peu les jupes pas tout à fait, non, et qui pouvait même être gênant. On peut, ma femme et d'autres sœurs peuvent maintenant la prendre à part et de lui dire, tu sais, maintenant, et ça passe très bien, la soumission. Mais au début, on n'a rien dit. On a accepté tel quel. Hein. Et toi, c'était... à un moment donné, ma femme me dit comme ça, oui, mais c'est les voisins, oui. Parce qu'elle venait dans un état vraiment, rouge aux lèvres, plein de cacaillerie partout. Alors que tous les autres qui venaient étaient des gens correctement habillés, cheveux coupés. Non, mais oui, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins si jamais... Bon, et puis... Il y a eu, mais on s'en fiche, mais enfin, vous voyez là, le côté humain qui prévaut malheureusement. Et maintenant, je relis les sœurs peuvent lui dire, ben voilà, il faudrait la retenue, et puis un petit bijou, pourquoi pas, mais pas, etc. Hein? Et ça. Mais jamais on n'aurait pu lui imposer cela s'il n'y avait pas eu tous ces études que le pasteur a fait, ses approches, ses après-midi, les avancées, les reculs. Mais c'est un travail de longue haleine. Et à ce moment-là, on peut donner aussi. la discipline de notre, de chaque assemblée en disant, voilà, maintenant, nous aimerions que tu vas chez nous, mais il comprend mieux que c'est même plus besoin de... Je vais me permettre de répondre soi, frère, mais il y a eu plusieurs cas comme ça.
J'aimerais poser une question à tous qui sont là. Nous étions en Afrique pendant assez longtemps, et parfois on est marqué encore par la mentalité africaine, bien qu'on soit déjà 7 ans ici. Mais j'aimerais vous poser la question, quel symbole revêt actuellement encore dans nos églises évangéliques la robe blanche du marié? En Afrique, dans nos églises, nous n'avons pas accepté que quelqu'un qui a vécu ensemble avec quelqu'un puisse porter la robe blanche dans nos églises, issues de la web. En France, ici, parfois, je suis un peu troublé de voir que beaucoup se présentent en robe blanche. Et quels sont, est-ce que c'est le symbole de la pureté en Jésus-Christ, il est notre justice, sinon à ce moment-là, tout le monde peut porter, si le jour avant, n'est-ce pas, marcherait avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a là des normes? J'aimerais bien connaître ça un peu, parce que sinon, dans nos églises, de plus en plus, nous avons des cas où des jeunes ont vécu ensemble, ou ont eu des expériences, et puis après, à un moment donné, quand même, quand ils veulent s'engager, ils attendent quand même un mariage dans l'église. Qu'est-ce que vous dites d'abord?
Moi, il me semble que le symbolisme de la virginité, parce qu'autrefois c'était précisément la virginité, est maintenant obsolète, qu'on ne le retient plus, qu'il ne joue plus. J'ai vraiment l'impression que, aussi bien qu'une mariée qui est effectivement vierge pourra choisir une autre tenue que la robe blanche, ça pourra exceptionnellement arriver, que des gens, des veuves, des divorcés, qui peuvent se remarier légitimement, emploieront la robe blanche, vraiment sans aucun problème. Il me semble que c'est comme ça, aujourd'hui. Mais je n'ai qu'un point d'observation très, très limité. Je ne suis pas tellement intéressé à la question.
Est-ce que nous devons nous contenter avec ça, ou est-ce que nous devons revenir à une norme plus biblique,
dans ce cadre-là, la norme biblique. Et là, c'est la norme biblique, il faudra encore chercher le livre et le chapitre. C'est la robe blanche. Non, mais je vous pose une question, frère. Si maintenant, deux ont vécu en concubinage et n'appartenaient pas au Seigneur avant, ils viennent au Seigneur, se repentent, se séparent et préparent leur mariage vraiment devant le Seigneur. Je pense que leur péché est pardonné. Si cette femme a envie de mettre une robe blanche de joie parce qu'elle se sent pardonnée, purité devant le Seigneur, sa vieille vie est en passé, baptisée et tout, je pense qu'on ne peut pas lui interdire la robe blanche, à mes yeux.
Oui, mais la question, si j'ai bien compris, telle qu'elle était posée, c'est est-ce que robe blanche signifie aujourd'hui encore dans nos pays virginité?
Oui.
Le Jésus répond pour lui non. Bon, pour nous. Pour nous, ça a toujours été bien, parce que on pouvait aussi bien se marier en bleu qu'en blanc, quoi. Dans ce sens, ça a toujours été non.
Tu veux dire dans notre église?
Dans notre église, oui.
Pour nous
personnellement.
C'est ça. Mais disons, dans notre région, c'était sans doute longtemps dans l'église catholique, mais plus
longtemps. Oui, c'est certainement un héritage de l'église catholique.
Mais les jeunes
n'y savent pas. Les jeunes n'y pensent plus du tout.
En acceptant l'idée, alors, que ce n'est plus important, est-ce qu'on ne prête pas, disons, on ne facilite pas un peu, pour certaines filles peut-être, la vie, je dirais. Non, ou est-ce que l'on n'enlève pas, disons, un certain défi qui est lancé encore? Je veux rester pur jusqu'au mariage.
Je sens que la solution n'est pas dans... La solution n'est peut-être pas dans le bord d'une robe blanche, mais dans l'enseignement qui est donné au groupe de jeunes, notamment. Je crois que c'est un des sujets, c'est peut-être pas marrant ou pas apprécié, mais il me semble que c'est un des sujets qu'il est nécessaire d'aborder tout à fait régulièrement dans les groupes de jeunes, hein, c'est la pureté avant le mariage. Et ça va pas se traduire en disant juste si tu n'es pas si une fille a connu des relations sexuelles avant le mariage, elle ne pourra pas porter sa robe blanche. Et puis si elle, je laisse ça à la limite, on donnera le bâton pour recevoir le coup si on tient ce genre de raisonnement. Tandis que si on donne un enseignement fondé sur l'écriture, qui défendent la virginité, la pureté avant le mariage, ça me sera beaucoup plus cohérent et crédible.
Pour les garçons aussi bien que
pour
les filles.
Et de plus, pour les garçons autant que pour les filles, là on regarde encore une fois les filles seulement. Les garçons, je pense qu'ils veulent, ils se marient de toute manière en costume.
Donc dans vos églises, il serait accepté qu'une fille chrétienne vienne avec une robe violette pour le mariage. Ce ne serait pas choquant pour l'église. Hein?
Moi, j'avais une robe chaude.
C'est spécial. Actuellement, parce que tu as quand même la majorité en blanc. Hein? Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne choquerait pas une fille chrétienne engagée dans le groupe de jeunes, dans l'église, viendrait en violet, ou bien en rouge, ou bien ce que sais-je encore? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pensent, mais pourquoi pas en blanc?
Mais disons, j'entends ma sœur qui dit bien. Dans, il y a une génération ou deux générations en arrière, à la bonne nouvelle, rare était celle qui se mariait en blanc. Si elle se mariait en blanc, ça c'était vu l'enseignement qui était donné, mais c'était qu'elle suivait le monde. Oui. Dans les habitudes du monde. Hein. Surtout la grande robe, la traîne avec les petites filles qui portent. C'est très joli, mais
ça va apprendre des choses.
C'est vrai, hein, c'est vrai.
Ça
fait
lorsque dans ma jeunesse, dans mon milieu familial, je me suis fait pousser la larme, c'était une grande catastrophe. Or, un de nos arguments en tant que tel, puisque mes frangins ont fait la même chose, il est parmi nous aussi. Tu te rends compte, c'est absolument abominable. Comment penser les gens? C'est le monde. Elle nous a rétorqué, je ne sais pas si bête que cela. Mais non, mais tout le monde se rase. Et nous, eh bien, on n'est pas comme tout le monde. c'est fou ce que l'on puisse acheter à cela. Puis maintenant, finalement, Fritz s'en barre, ça ne passe même plus. Mais ça, c'est un autre problème. Et c'est là que je voulais aussi y revenir. Vous avez dit quelque chose qui me paraissait intéressant et important par rapport aux critères de distinction des différentes fautes, et en particulier le rapport logique au reste des autres vérités révélées. En prenant l'exemple de la Galatie et de la circoncision, dans la discussion de Paul aux Galates, aujourd'hui, cette discussion-là, nous ne pouvons pas non plus l'appliquer à la lettre. C'était certainement plus lié à la circonstance, à la compréhension et à la pratique de l'époque. Aujourd'hui, ce serait d'autres problèmes qu'il faudrait évoquer en rapport avec cette situation-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose en rapport avec la bienséance qui, quelquefois, est employée dans le Nouveau Testament, aussi par l'apôtre Paul, ce qui est conforme à la bienséance? Et justement, cette bienséance est aujourd'hui telle, et dans deux jours, ou dans quelques années, elle ne sera plus bienséance. Et il faudra peut-être voir autre chose. Et c'est pour ça que je crois que aussi la discipline est quelque chose de vivant. Et comme vous avez enlevé l'idée de l'image du squelette qui est aussi vivant, et c'est une question que j'allais poser aussi, est-ce que ça peut vouloir dire que justement la discipline évolue? Parce que squelette vivant, justement en fonction du temps dans lequel on vit.
Oui, on a peut-être un exemple biblique. Le conseil de Jérusalem, Actes chapitre 15, si je me souviens bien, interdisait, donc le sang, interdisait... Voilà. Et l'apôtre Paul, quand il parlera plus tard des viandes sacrifiées aux idoles, il dira, vous achetez ce qui se vend au marché. Ce qui se vendait au marché n'était pas caché. Quelques, je ne sais plus combien, une dizaine d'années, peut-être plus tard, plus, aux Corinthiens, il ne parle plus de la même façon. Il n'insiste plus sur...
Je pense que c'est une illustration qui nous aide face à la question très redoutable que vous posez. Je crois que nous ne pouvons pas, en effet, nier qu'il y ait une adaptation selon la diversité des situations, que parmi les conséquences pratiques, c'est un des critères que j'ai évoqué, beaucoup diffèrent selon les réactions du temps selon les échelles de valeurs qui sont communément dans l'esprit, on fera des dégâts plus ou moins grands selon que la sensibilité est aiguë ou non alentour. Là, le nom de Dieu sera décrié ou au contraire ne souffrira pas. On ne peut pas éviter de tenir compte des circonstances, dans l'interprétation du Nouveau Testament, en tout cas de tout ce qui est de directives pratiques pour le comportement, il faut bien repérer quel est le lien au contexte socioculturel. Mais en même temps, la tentation de relativisme est très grande quand on fait cette étude. Et je crois qu'aujourd'hui, très couramment, au nom de ce contexte socioculturel, on annule pratiquement des dispositions nettes du Nouveau Testament, même celles que l'apôtre réfère à l'ordre de création. Et de ce fait, je crois qu'il est utile, quand on reconnaît qu'il faut une certaine souplesse adaptative, qu'il y a une plasticité, il faut en même temps souligner que la diversité des époques est souvent une diversité assez superficielle, que la vision biblique de l'humain à travers l'histoire, c'est que les grands caractères de l'humain demeurent les mêmes, ce sont des invariants, contrairement à ce qui est, en tout cas pour une part, la vision de l'homme courante aujourd'hui. On nous présente l'homme comme presque entièrement façonné par sa culture, système symbolique, de telle sorte que chaque époque vit comme emprisonnée dans une vision du monde, personne ne pouvait en sortir parce que le langage d'héritage culturel déterminait entièrement la façon de prendre les choses, et puis une autre vision du monde est radicalement différente, une autre culture prend les choses tout à fait autrement. Ce n'est pas la vision biblique. La vision biblique me semble être une unité de l'humain à travers les siècles, selon des constantes que Dieu a institué dans la création même, et ça aussi se joue pour le mariage en particulier, de telle sorte que les variations entre cultures sont à prendre en compte, mais ne doivent pas être considérées comme si radicalement importantes.
Donc le problème du blue jean des jeunes filles actuellement, que certaines sœurs plus anciennes reprochent, etc., bon, parce que moi j'ai une fille de 16 ans, bon, on lui demande, même sa mère lui demande de venir le culte de dimanche, si tu rentres à la maison, tu te changes. Disons, il y a un problème. Moi je n'arrive pas à le trancher en tant que père, parce que, pour diverses raisons que vous comprenez très bien. Mais quelle est la position des églises? Et c'est vrai, nous avons là le problème de modernisme. Le blue jean n'est plus un pantalon, c'est plus un habit d'homme, comme porter George Sand. C'est vraiment quelque chose de sportif, alors le training pareil. Alors quelle peut être avec justesse et la position?
D'autant plus que c'est le tissu des Huguenots, si je me souviens.
Oui, il me semble que le vêtement appartient tout spécialement à cette périphérie du socioculturel qui change le plus selon les époques et les lieux, qui est un code symbolique qui peut varier beaucoup pour transmettre les mêmes significations. À mon avis, là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis vraiment pas gêné par la question du blue jeans, j'avoue. Mais là où les choses se corsent, par exemple, c'est à propos de l'homosexualité. Oui. Nous avons évoqué ce matin, tu sais. Là, quand certains vont prétendre que c'est que les préceptes bibliques sont relatifs à une certaine situation socioculturelle, à certaines échelles de valeur, mais que dans d'autres cultures c'est tout autrement, etc. Là, je pense que c'est le genre de débordement et de renversement qui est une véritable annulation de fait de l'autorité scripturaire.
C'est encore un autre exemple pratique qui me chipote. Est-ce que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux? L'homme, vous aviez dit, oui. Est-ce que l'homme doit prier la tête,
découverte?
Alors que tout au long de l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient le bonnet, et que les Juifs sur des fresques se reconnaissent parmi les autres soldats en général par la longueur de leurs cheveux, et que celui qui se consacrait, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Est-ce que c'était
socioculturelle époque, disons, chez les Corinthiens. C'est la seule lettre où nous trouvons cette remarque.
C'est ce qui me semble, mais je ne veux pas trop m'aventurer non plus dans l'étude de ce texte délicat. Le point qui fait le plus difficulté, c'est la nature n'enseigne-t-elle pas ? Est-ce que cette formulation de Paul nous oblige à penser qu'il s'agit d'une nature en quelque sorte transtemporelle, universelle ? Là, il y a des objections. On a pu dire que les cheveux crépus des femmes africaines ne sont pas des cheveux longs, ils ne peuvent pas l'être. C'est vraiment leurs cheveux selon la nature. Donc, je crois que nous sommes obligés de prendre le mot nature dans un sens plus faible. Il s'agit du sentiment spontané qu'éprouvent les Corinthiens, avec tous les conditionnements qui ont joué pour eux, et nous n'avons pas, me semble-t-il, là, à donner au mot nature une portée beaucoup plus grande. Avec tous les arguments que vous avez évoqués à l'appui de cette pensée.
Je vais t'ajouter. Je ne vais pas soulever de lieu, hein, mais il y a quand même un verset qui m'a déjà souvent confronté dans 1 Timothée 2, verset 9, dans le 12, en 10. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, et car Adam a été formé le premier. Salut-moi la question. Est-ce que ça, c'est transfigure, c'est lié à la culture, ou bien ça remonte jusqu'à la création?
À mon avis, je vous donne mes conclusions, si vous voulez, toujours provisoires, toujours révisables, sur ce passage. Il s'agit d'un ordre de création, que Paul parle en fonction de Genèse 2 et 3, que dans la formulation, la manière dont il parle de cet ordre de création, on sent aussi l'influence d'une situation particulière, de faux docteurs qui séduisaient particulièrement les femmes, comme il est dit plus loin dans les épîtres à Timothée. Donc il y a une nervosité de l'apôtre, un ton assez dur qui sans doute se surajoute pour cette raison, mais ça n'annule pas la référence à la création, le fait qu'il y a un ordre de création qui est en cause par en dessous, en sous-bassement. Et en troisième lieu, pour réconcilier l'ensemble des données bibliques sur la femme et la parole dans l'Église, je crois qu'il faut dire, un, que cela ne concerne que l'enseignement d'autorité dans l'Église, pas la prophétie par exemple,
la doctrine.
Oui, celui qui dispense la doctrine avec l'autorité, une charge donnée par Dieu. Il dit ce qu'il convient de croire. Et ça ne concerne pas la prophétie. Bien qu'il y ait une zone limitrophe, parce qu'il est dit parfois des prophètes qu'ils enseignent, mais les deux offices de prophète et de docteur me paraissant distincts, il me semble devoir dire bibliquement que la prophétie est un office qui est parfaitement ouvert aux femmes. Alors que le texte de Timothée 2 montre qu'il n'est pas ordinairement ouvert aux femmes. Office de docteur enseignant la doctrine. Mais, et ça c'est le dernier point si vous voulez, je pense qu'il peut y avoir office extraordinaire, que c'est la seule manière de rendre compte de la présence de certaines femmes avec un rôle d'enseignement et d'enseignement d'autorité dans l'Église. Je crois que concrètement, on le voit, des collaboratrices de Paul, Phébé, Priscille. Il me semble que c'est trop rusé avec les textes que de dire « Oh ben non, c'était juste en privé » ou je sais pas. Donc, il me semble que la bonne façon, c'est de dire « Il y a un ordre qui définit un ordinaire. » Le mot « ordinaire » vient d'ordre, n'est-ce pas ? C'est ce que Dieu a disposé comme la formule, on pourrait dire, normale, habituelle. Mais Dieu reste libre de susciter des vocations extraordinaires en donnant les dons correspondants. Et on reconnaît qu'il a adressé une telle vocation par les dons qu'il a fait. Donc ça ne ferme pas la porte à la manière d'un article de code qui exclurait tout. Mais s'il y a un tel ministère de femmes enseignantes, c'est à titre extraordinaire. Voilà, je résume donc ce à quoi j'arrive, mais je suis persuadé que Paul s'appuie sur quelque chose d'établi dès la création, dans la création.
Mais si je peux me permettre, cette question, cette
interprétation qui vise l'enseignement d'autorité, qui serait permis à titre exceptionnel ou extraordinaire à certaines femmes. Donc, la prophétie également étant ordinairement même.
Oui, ordinairement.
Appelée aux femmes. Là aussi, il y a la frontière. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui permet de dire qu'un enseignement est d'autorité sur telle situation et n'est pas dans une telle ou autre, car dans le fond, si nous y réfléchissons bien, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, c'est la question de la révélation aussi, un enseignement d'autorité qui fonderait en quelque sorte la doctrine, qui dispenserait la doctrine nouvelle, entre guillemets, et qui n'aurait pas encore existé jusqu'à présent. Ça voudrait presque dire que finalement, il y aurait encore actuellement des formulations de doctrine qui ne sont pas dans l'écriture et qui nécessiteraient des spécialistes d'autorité. Alors, c'est pour ça que je trouve que la distinction entre enseignement d'autorité et enseignement normal est artificielle.
Alors, je répondrai à ce qui me concerne, que lorsque je parle d'un enseignement d'autorité dans l'Église, je ne pense pas à un enseignement de doctrine nouvelle, avec une autorité de fondation à cet égard, mais simplement à une autorité de dispensation. Je crois que dans le rôle des ministres de l'Église, il y a une autorité, simplement déjà, qui s'exerce dans l'explication de l'Écriture, dans la transmission de la saine doctrine. Si vous voulez, j'estime avoir ce rôle. J'estime que dans mon Église, j'ai un rôle doctoral revêtu d'une certaine autorité. Bon, bien sûr, pas illimité, pas infaillé, mais je crois que ça existe. Et je pense que ce rôle-là, le régime ordinaire, c'est qu'il soit tenu par des personnes de sexe masculin. Mais que Dieu peut susciter, selon sa liberté, des femmes aussi pour le remplir.
Alors ça me paraît encore plus facile.
Par rapport à la distinction avec la prophétie?
Oui, et par rapport avec, je veux dire, la notion d'enseignement d'autorité, si c'est la transmission de la saine doctrine, je suis prêt à reconnaître que vous êtes parmi ceux-là et bien d'autres, mais la distinction me paraît encore plus évidente.
La distinction avec la prophétie, oui, je l'ai dit, il y a le temps, il me semble qu'il y a une zone d'empiètement limitrophe, parce que le prophète enseigne aussi, et en outre, la tradition de la prédication dans les églises évangéliques, depuis la réforme, en tout cas la réforme magistérielle, me semble correspondre à une espèce de mélange prophético-doctoral, qui n'est ni l'un ni l'autre, tout à fait, et donc là, se crée un problème pratique. Je suis prêt à reconnaître, mais je pense que ce n'est quand même pas si difficile quand même de reconnaître une femme qui apporte un message de type prophétique, la parole de Dieu ici et maintenant, et qui a ce ministère de façon plus ordinaire. Je ne pense pas que ce soit si difficile en pratique.
Je voulais juste dire que la question d'enseignement d'autorité ne concerne, je ne crois pas, comme il a été dit, le contenu, mais l'aspect de la personne qui le transmet. M. Blochet a parlé de la charge, parce que ce n'est pas là que la réponse, c'est-à-dire une personne qui a la charge d'enseigner, une charge reconnue, donc qui a une certaine autorité. La différence entre quelqu'un qui enseigne de diverses manières et quelqu'un qui a la charge d'enseigner dans une communauté, c'est peut-être là la différence principale. Une réponse parmi d'autres.
Est-ce que vous accepteriez une femme qui enseigne à vous sur scène, qui a tout fait?
Oui, nous l'accepterions, pourvu qu'elle ait les dons voulus. Je dirais que non seulement il y aurait ce principe du régime extraordinaire que j'ai évoqué il y a quelques instants, les dons nous montrant que cette femme serait suscitée par Dieu en cette capacité, mais aussi nous faisons une distinction supplémentaire, nous en avons parlé entre collègues, donc c'est pour ça que nous disons, la distinction entre l'apport technique d'information dans une situation particulière qui n'est pas simplement celle de la communauté locale, donc dans une faculté, et puis ce rôle d'autorité selon une charge ecclésiastique. Il y a interférence, je ne le nie pas, Mais dans l'enseignement en faculté, il y a une composante qui est considérable, me semble-t-il, de compétences purement techniques et d'apport d'informations. Ne correspond pas à cette autorité de la charge. Et alors, à propos de cette compétence technique, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de différence entre des femmes.
Ils ne font pas des chrétiens, ils font des pasteurs.
Oui, oui.
C'est plus fort encore. Le rôle est encore plus important que celui
d'un. Ah oui, ce n'est pas une question d'importance du rôle. C'est disons, comme un annexe des églises, ce n'est pas la situation exacte de ces rôles de docteur enseignant en église. Mais en même temps, c'est pas non plus séparé entièrement. Hein. Là, je suis tout à fait prêt à le reconnaître. C'est pour ça que je dois aussi faire jouer, pour être conséquent avec la lecture que je fais des textes bibliques, que ce serait aussi quand même au titre du régime extraordinaire. Dans ce grand débat, si vous me permettez de dire encore un mot, bien sûr, je vous l'expose. D'autres le mettent la différenciation au sein même de la tâche d'enseigner, ce qui était la deuxième pensée, d'autres sur le caractère collégial. Bon. Mais nous en arrivons à peu près au même point pratique. Et je dirais que ma propre position dans les débats contemporains consiste d'une part à réagir assez fort contre une certaine théologie féministe qui me semble tordre les textes au profit de son féminisme. Alors là, j'essaie de lutter contre ce qui me semble vraiment un traitement inadéquat des passages bibliques, mais d'autre part d'arriver en pratique à des positions qui sont très très larges, comme vous vous en rendez compte, parce que je crois qu'avec la pensée du régime extraordinaire, finalement, si une femme a les dos, il n'y aura pas de barrage. C'est ordinaire et extraordinaire dans un sens quasiment juridique, comme il y a un professeur ordinaire ou un professeur extraordinaire. Vous savez, ça fait partie du vocabulaire très traditionnel dans les universités. Les charges peuvent être à titre ordinaire ou à titre extraordinaire, même pour les ambassadeurs. C'est avec ces nuances-là que j'en fais le terme.
Mais quand on peut constater dans les églises, c'est un petit peu ma constatation, que le Seigneur équipe justement aussi les femmes avec des dons relatifs, couramment, qu'on peut appeler ordinaire pour un homme, mais aussi pour une femme, particulièrement le don d'enseigner. Justement, c'est la grande question. Est-ce que nous pourrions continuer à affirmer que, bon, à cause de ce texte, la femme n'a pas le droit d'enseigner, que ce serait seulement extraordinaire? Et même dans ce texte, il n'est même pas stipulé quel genre d'enseignement elle doit transmettre. Alors, si on regarde un enseignement tout court, je veux dire, laïque entre guillemets, il est monopolisé quasiment par la gente féminine, et personne ne s'en émeut, y compris les chrétiens. Et ça peut poser un vrai sous-entendu, ou peut-être qu'elles ont effectivement un don, spécifiquement par rapport aux enfants, et c'est le plus grand enfant que nous sommes aussi, d'enseigner. Je constate cela, maintenant, dans notre église, je me rends compte qu'il y a des sœurs qui ont manifestement un don d'enseigner. Alors que faire? Mais ça, c'est un autre domaine, ça n'a rien à voir avec
la vie. Mon commentaire serait que, donc, d'une part, vous touchez là à cet autre point que j'ai évoqué brièvement sur la différenciation quant à la tâche d'enseigner. Et je pense que le point central que l'apôtre a en vue, c'est la notion d'autorité. Celui qui a la charge de reçu de Dieu, sans être infaillible, de dire, ça c'est une erreur, ne faut pas enseigner. Ça, c'est, voilà la sainte doctrine. Ça n'a pas tellement à faire avec un don pédagogique, avec l'habileté pour faire passer la chose, etc. Que souvent, effectivement, nos sœurs ont davantage que nous. Hein. C'est vrai. Donc, mais disons une différenciation interne, une sorte de démultiplication de ce qui est peut-être mis sous le mot d'enseigner. Et vous avez tout à fait raison de dire, il faut chercher ce qui est spécialement en cause dans 1 Timothée 2. Deuxième remarque, en ce qui concerne cette féminisation du corps enseignant dans nos écoles publiques, je dirais, ce n'est sans doute pas sans inconvénient. Evelyne Sullerot, qui est une pionnière du féminisme, s'en est quelque peu émue. Elle est, me semble-t-il, vraiment très très remarquable dans l'analyse des problèmes qu'elle fait. Et du point de vue de l'empreinte sur les jeunes enfants en particulier, mais sur d'autres aussi, l'absence de figure masculine dans la formation scolaire est sans doute assez dommageable.
Je peux me permettre juste une remarque. Enfin, j'ai envie d'en parler, mais je m'enseigne l'hébreu à la faculté de théologie évangélique de Bâle. Et puis j'ai aussi été chargée déjà d'un cours sur l'introduction au prophète antérieur, donc c'est José Jude, où les étudiants participent eux-mêmes. Hein. Je voudrais consciemment que eux participent. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Je voudrais, par exemple, en aucun cas, enseigner la doctrine. Parce que je pense justement que c'est lié à l'autorité. Mais quand on vit la situation, c'est encore différent que seulement de faire la théorie. Et je pense que dans une famille aussi, un père n'est pas une mère et une mère n'est pas un père. Et si le père n'est pas le père, la mère ne peut pas être pleinement la mère. Même si la mère est mille fois plus douée, par exemple intellectuellement, elle est la mère et le père est le père. Et c'est l'idéal. Si ça se passe comme ça, parfois ça ne va pas. Il y a des pères qui démissionnent et la mère doit bien prendre. C'est ça extraordinaire, je dirais un petit peu. Et je me suis trouvée une fois dans une situation, pourtant c'était un cours d'introduction, il fallait simplement avoir l'introduction à ces livres, et surtout la critique, et rejeter la critique, rejeter toutes ces erreurs, etc., et puis étudier ça en particulier. Alors, un étudiant avait un sujet, et il n'a pas réellement, tant qu'en répondu à sa question, il en a profité pour sortir des idées vraiment fausses sur la Bible. Pour lui, je ne sais plus mais ça fait longtemps, mais en tout cas, ça revenait un petit peu que la Bible n'était pas la seule parole normative de Dieu, quelque chose du genre. Ça allait dans cette direction et certains étudiants réagissaient. Ça a occupé une grande discussion et j'étais reconnaissante que le Seigneur m'ait donné l'idée de dire on ne discute pas maintenant, on va en parler une autre fois. Et j'ai parlé seule avec l'étudiant et j'ai vu que je ne pouvais pas le résoudre. Et bon, je me suis évidemment préparée aussi en avançant les textes bibliques. Et alors j'en ai parlé rapidement au directeur, je crois même sans le nommer une première fois, mais en demandant si je pouvais faire appel au professeur de dogmatique. Et alors, il est venu pour un cours là-dessus, parce que c'était une question très importante. Et là, je sentais que, même admettons que j'ai eu tous les arguments, je sentais que je dépassais ma place de femme dans cette école, avec des hommes, c'est pas des enfants, c'est pas des ados même, hein, c'est des hommes qui se préparent au ministère, je sentais que j'aurais dépassé ma place. Ça, c'est plutôt en guise de témoignage, un peu, parce qu'il n'y a pas l'aspect intellectuel et dons intellectuels, il y a l'aspect de ce qu'on est. Et quand je vais plus loin, que ce que Dieu me donne comme responsabilité, je ne suis plus tellement femme à la nuit. J'étais 11 ans institutrice aussi, parfois j'avais l'impression d'être en agent police. Parce qu'on devient adulte, même avec des enfants, la discipline compte, hein, si on peut bien leur enseigner. Et je crois que j'ai peu à peu dû apprendre à être femme, et femme pour moi, c'est surtout être mère, je ne suis pas mariée, hein. Je vois surtout l'aspect prendre soin des autres. Et c'est assez difficile d'avoir fait ce rôle-là et d'avoir en même temps un rôle d'autorité. Ou à un moment donné, on dit stop. Parce que comprendre l'autre, ça va très loin. Et je pense que ça, c'est souvent notre tâche. Et je le fais volontiers. Je n'en réunis pas les hommes. Moi, j'aimerais que dans l'église et partout, les hommes soient tellement les hommes. Alors je crois que nous, en fait, tous les femmes. Je viens maintenant d'un autre côté une fois pour vraiment souligner. Et le danger pour nous, nous sommes parfois plus promptes. Et alors, nous voulons faire les choses, nous voyons les choses à faire. Et nous ne laissons pas aux frères le temps de s'y mettre aussi. Et je crois que nous devrions parfois les encourager à faire aussi les choses et à prendre surtout les responsabilités. Je me souviens du témoignage de frères russes qui m'ont raconté comment ils avaient appris que la fête de Noël qui projetait avec trois groupes d'enfants dans trois familles que les communistes avaient quelque chose à ce sujet qui risquait de venir les déranger, peut-être d'emmener des terres et puis enfin bref, ils ne savaient pas ce qu'ils risquaient. Ils n'en ont pas parlé aux épouses, ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont pris une décision, ils ont pris ça sur eux, sans rien dire pour ne pas gâcher ni la joie des mères ni la joie des enfants. Ils ont fait ces trois réunions de Noël. Et bon, Dieu les a préservés. Le lendemain, je crois, l'instituteur a dit à des enfants qui avaient dans votre cours hier soir, on les a vus, qui avaient la déforme blanche, je ne sais pas quoi. Mais ça aurait pu tourner autrement. Ils l'ont fait sans savoir comment Dieu répondrait. Moi, ça m'a impressionné ce témoignage, parce que j'ai vu des gens, des pères de famille qui prennent quelque chose sur leur vie. Et je crois que c'est ce que nous, femmes, nous souhaitons. On ne peut pas forcément dire, oh, tu dois faire ceci, tu dois faire ça, et pas un mot, et n'achète surtout pas quelque chose sans me demander, comme ça arrive, des trucs de ce genre, il ne s'agit pas de ça. Mais pour moi, un homme, c'est vraiment quelqu'un qui prend les choses sur son dos. Et qui n'attend pas que ce soit sa femme qui prenne les décisions.
Les hommes prient en tout lieu en élevant vers que les hommes, c'est-à-dire les maris prient en tout lieu en élevant vers Dieu des mains. Et dans le texte, le mot homme, ce n'est pas les humains, ce sont des maris.
C'est ça. En tout cas, les hommes masculins.
Est-ce qu'on peut encore soulever le pierre des remariages et divorcés? Alors, on est en train de tricher parce qu'on a déjà fait presque trois sujets.
Tout fait partie de la discipline.
Je dis ça parce que notre frère, quand on a pensé à lui il y a quelques mois, en fait, nous avait proposé, entre autres, dans les sujets, il en avait proposé six. Il y avait autour du mariage, il y avait théologie scripturelle, féminisme, et puis la discipline donc, qu'on a choisie aujourd'hui. Mais je crois que c'est bien effectivement compris.
C'est très difficile pour moi de répondre parce que je ne veux pas parler trop longtemps et puis en même temps ce sont d'immenses sujets et résumer risque d'induire en erreur. Je signale à propos de la question du remariage des divorcés, d'une part que j'ai fait un très très long exposé, j'avais cru que c'était une pastorale, alors j'avais préparé pour un truc fort long et en fait il y avait beaucoup plus de monde que des pasteurs et des responsables de l'église. Ce qui fait que j'ai parlé vraiment trop longtemps, mais enfin, parce que les membres habituels dans nos assemblées ne sont pas, je pense, armés pour supporter un aussi long discours. Alors, ça a été enregistré, ça a été retapé, ça sera réutilisé par la mission Vie-Famille. Vous savez, vous connaissez cette branche française de ce que Trobisch avait lancé. Ça va être disponible. En fait, je dois voir mardi la dame qui a fait le travail à partir de la bande enregistrée. Moi, je vais me montrer le texte auquel elle aboutit pour que je vérifie quand même. Donc, il va y avoir quelque chose sur le sujet précisément. Et puis, d'autre part, va apparaître une nouvelle édition en français du livre Le divorce de John Murray. Le théologien réformé qui a fait une étude très fouillée du sujet, et Sator qui publie, donc c'est Sator que ça va apparaître, m'a demandé une introduction. J'ai fait une longue introduction donc sur la question du divorce, la théologie concernant le divorce. C'est plus une douzaine de pages pratiquement que j'ai écrites, donc assez long, et ça devrait paraître très prochainement. Donc, je signale ça pour que vous trouviez un exposé plus détaillé et nuancé que ce que je vais essayer de dire maintenant en résumant à l'extrême. J'adopte la position qui est celle des réformateurs, mais qui n'est pas la seule position dans le protestantisme, et en particulier dans le protestantisme évangélique. Une position qui est assez proche de celle de Stott, à savoir que le lien conjugal n'est indissoluble que dans le sens du vœu divin, et non pas dans le sens physique d'une permanence inaltérable jusqu'à la mort, ce qui est le sens catholique. Il s'agit d'un commandement que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il ne s'agit pas d'une impossibilité physique que le lien de l'union soit dissous, de telle sorte que s'il y a divorce, le lien du Dieu subsiste toujours et qu'il y a impossibilité donc de remariage. Tout le débat, à mon avis, tourne autour de cette question-là. Y a-t-il permanence ou destruction du lien? Alors, à mon avis, le lien n'est pas indestructible. Il est indissoluble dans le même sens que la vie humaine est inviolable. C'est-à-dire que le commandement de Dieu, c'est qu'on ne détruise pas. Comme le commandement divin, c'est qu'on ne tue pas. Mais, hélas, par cause de péché, ça peut arriver. Alors, je comprends les paroles de Jésus, et spécialement les clauses d'exception, dans Matthieu 5 et Matthieu 19, comme indiquant que lorsqu'il y a eu un péché d'impudicité, c'est un terme très général qui est employé par Jésus pour toute la catégorie de ces péchés, un divorce peut, sans péché supplémentaire, être prononcé et qu'à ce moment-là, le lien conjugal est dissous. Et qu'un remariage peut avoir lieu sans péché. Voilà comment je comprends, et ça c'est la compréhension des réformateurs, et de John Murray aussi. Un Corinthiens 7 ajoute un autre cas. Il me semble que on peut l'admettre aussi, avec les réformateurs, le cas de ce qu'on appelle traditionnellement la désertion malicieuse. Paul a eu la liberté d'ajouter à ces cas d'impudicité le cas de désertion. Il envisage la situation d'un couple mixte. Si le conjoint croyant délaisse le conjoint croyant, ne consente plus à cohabiter, il faut le laisser partir, et dans ces cas-là, le lien conjugal est rompu. Le frère et la sœur ne sont plus liés dans ces cas-là. Dit Paul, à mon avis, cela se réfère et doit se référer au lien conjugal, de telle sorte qu'un remariage est possible. Alors, à partir de là, question difficile, c'est valable pour un incroyant qui quitte un chrétien. Mais a-t-on le droit, comme le faisait Luther, d'ajouter que si c'est un mauvais chrétien, il retombe dans la catégorie de l'incroyant, selon la parole, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Si c'est quelqu'un qui précisément reste rebelle à la discipline de l'Église, ne faut-il pas tirer de Matthieu 18 qu'il a le même statut à ce moment-là, du point de vue de la discipline, que le païen, donc qu'un Corinthiens 7 joue pour lui aussi. Enfin, il me semble que c'est possible de l'étendre jusque-là, mais je reconnais que ce n'est pas explicite, que ce n'est pas en toute lettre dans le texte. Luther le faisait, Calvin était plus réticent, sans dire non absolument, et en fait, dans le cas d'un gentilhomme protestant que sa femme restée catholique ne voulait pas suivre, Calvin a approuvé le divorce et remariage. Donc, Calvin, en fait, dans une situation pratique, a aussi admis cela. Vous voyez? Mais il était quand même assez réticent, plus que Luther. Je suis prêt à aller jusque-là. Je signale à propos d'un Corinthiens 7 que ça c'est un point de désaccord avec John Stott, que je ne crois pas que ce soit nécessairement pour raison religieuse. Stott et d'autres disent c'est quand le conjoint incroyant refuse de cohabiter pour raison religieuse. Ce n'est pas dit dans le texte. Donc à mon avis c'est une clause qui restreint à l'excès ce que Paul permet dans ce cas-là. Maintenant, question alors qui devient beaucoup plus délicate et difficile, si Paul a eu la hardiesse d'ajouter un cas à celui que Jésus avait prévu, lui qui n'a parlé que d'impudicité, cela signifie-t-il que nous pourrions ajouter encore d'autres cas en vertu de l'analogie? Certains théologiens l'ont fait, anciens et modernes, Bucer en particulier, était très large, Bullinger aussi, par exemple, de Zurich. Assez large. Alors là, c'est vraiment un risque de péril, mais je ne dis pas non plus que ce soit totalement exclu. Hein. Dans l'introduction que j'ai faite donc au livre de Murray, je pense qu'il y a lieu là d'être quelque peu hésitant. Il n'y a pas doute que quand il y a tentative de meurtre, violence physique habituelle, on se dit, est-ce que vraiment ce n'est pas équivalent à la désertion, à l'abandon du domicile, est-ce que ce n'est pas équivalent à une faute d'impudicité, mais en même temps ce n'est pas dit. Donc vous voyez la difficulté. Question supplémentaire, finalement j'en donne pas mal de détails, question supplémentaire qui se pose. Lorsque le divorce n'a pas eu lieu pour une cause qui le légitimait, donc lorsque ce n'est pas l'exception que prévoit Jésus, et qu'on étend avec l'autorité de Paul, lorsque cette clause n'a pas joué, celui qui épouse la femme divorcée commet un adultère, dit Jésus. Ça, c'est vrai. Mais une fois que cet adultère est commis, comment considérer la situation? Il semble, ça se paraît la logique de cette doctrine, que cette nouvelle union est une faute, l'adultère, puisque le lien subsistait jusque-là, mais que cette faute même détruit le lien antérieur, puisque précisément c'est un adultère. Mmh. Il a en quelque sorte manqué une faute antérieurement au divorce pour que le divorce puisse couper le lien, donc le lien a subsisté, mais la faute venant postérieurement semble pouvoir avoir le même effet que si la faute était, avait été antérieure. Ce qui veut dire qu'il y a une faute, mais que le nouveau mariage, du coup, est validé. Le lien ancien est rompu, et un lien nouveau, donc, à ce moment-là, peut être contracté. Et je tire de ça la conclusion que même quand un remariage a eu lieu dans une situation où il n'aurait pas été permis, d'après la loi du Seigneur, il est cependant valide. Il faut qu'il y ait confession de la faute que ce nouveau mariage, que ce remariage a constitué, mais il n'y a pas à réclamer ensuite des personnes en cause qu'elles se séparent, qu'il y ait retour au premier mari. Il ne me semble pas que ce soit là la voie exigée par le texte biblique, la logique de la doctrine exposée. Voilà, je vous résume donc très brièvement les choses. Par rapport à la discipline ecclésiastique, je pense qu'il faut dire que c'est la même règle qui s'applique pour d'autres fautes. Lorsqu'il y a faute, il faut qu'il y ait repentance. Il peut y avoir application de discipline, privation, excommunication mineure ou majeure, etc., amonestation, mais que là aussi la repentance efface. Et que, à mon avis, lorsqu'il y a une repentance à propos d'un adultère, d'une impudicité qui a justifié un divorce, ou d'un adultère postérieur, etc. S'il y a repentance, alors il est possible d'invoquer la bénédiction du Seigneur sur un nouveau mariage. Il sera, je pense, juste et décent à ce moment-là de ne pas avoir un service où on semble totalement oublié, où cette histoire traumatisée du couple, ou en tout cas des deux conjoints, mais avec du tact, donc dans la manière de faire, je crois qu'il est possible d'invoquer la bénédiction de Dieu sur ce nouveau mariage qui est valide. Voilà, je résume la position à laquelle je suis arrivé.
Le bouquin que vous venez de citer, il fait toute une analyse sur le mot porneia et sa signification. Vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, sur porneia, je crois que c'est juste, oui, je crois. Oui. Oui. Oui, c'est vraiment le mot très, très général pour toutes les infractions aux règles que Dieu a posées dans le domaine sexuel. C'est un mot très général qu'il ne faut pas confondre donc avec le mot adultère. Il y a un type particulier de faute dans ce domaine. Mais je pense, pour dire les choses très franchement, que le livre de John Murray est très utile par le détail de son analyse, la compétence réelle qu'avait son auteur. C'était un grand bonhomme qui a, entre autres, fait un très beau livre sur les principes chrétiens de conduite et un gros commentaire sur l'Épître aux Romains. Donc c'était un homme de Dieu remarquable, un peu rigide peut-être. Par exemple, il respectait le sabbat presque comme un juif. Le sabbat puritain, c'est-à-dire le dimanche. Mais devant prêcher dans une église le dimanche matin, il allait loger la veille au soir, tout près de cette église, pour pouvoir y aller à pied, par scrupule de conscience à l'égard des transports en commun, utiliser le jour du sabbat, comme il disait. Vous voyez, c'était un homme de cette trempe-là, de John Murray. C'était un grand bonhomme. Je pense que, par moments, il utilise un petit peu le gros bout de la lorgnette dans son étude. Là, ça manque un peu de perspective ample, de mise en place. Et j'ai essayé dans l'introduction de contrebalancer un petit peu ça.
Entre l'ancienne édition et la nouvelle, est-ce qu'il y a un changement de position ou bien est-ce qu'il y a certains éléments?
Non, je crois que son texte à lui demeure exactement le même. Mais donc il y a l'addition des quelques pages qu'on m'a demandé.
Voilà, s'il n'y a plus de lièvre sous l'étage. Voilà, en tout cas, j'aimerais remercier, je pense, au nom de tous, Monsieur Glocher pour ce qu'il nous a apporté. Il sera encore là avec nous demain dans le cadre de la journée des églises indépendantes qui a lieu traditionnellement à la fin du mois de juin, début juillet. Donc si l'un ou l'autre est intéressé ou si vous voulez en faire part à vos églises respectives, M. Blocher parlera au culte demain matin donc au Rimlisov à partir de 10h15 sur le sujet « Rendre raison de sa foi ». Et l'après-midi, le thème est « Répondre aux objections ». Autrement dit, c'est le thème de l'apologétique en fait. Voilà. Est-ce que je peux demander à deux frères ou sœurs de terminer dans la prière cette journée en vous remerciant d'être venus?
Seigneur votre Dieu, nous voulons particulièrement te louer et t'adorer parce que cette journée nous a permis d'apprendre les uns des autres, mais spécialement aussi d'apprendre de l'étude de notre frère que tu as effectivement placé dans l'Église comme un de nos docteurs. Merci pour les dons que tu confies à tes enfants. C'était bienfaisant, Seigneur, de se ressourcer ainsi sur la base de ta parole, de se revoir en tant que frère. Merci aussi pour les échanges qui ont eu lieu, qui permettent de mieux le connaître aussi. Merci parce que tu veux que chacun, là où tu nous as placés, nous puissions mieux te servir. Et cette journée a été aussi là pour nous équiper, afin de mieux pouvoir te servir, afin que nous puissions mieux, avec les frères et sœurs de nos assemblées respectives, exercer cette discipline que tu souhaites pour ton Église, afin que tu puisses la trouver bientôt pure, sans tache, sans reproche. Merci aussi parce qu'il y a toujours cette possibilité fantastique de faire appel à ton sang précieux, qui lui est suffisant pour couvrir toutes les fautes. Merci parce que tu agis ainsi avec nous, tu agiras aussi ainsi avec nous pour la suite et avec nos frères et sœurs que tu nous confies. Nous t'adorons, nous te bénissons dans ce magnifique nom de Jésus.
Amen.
Merci Père Céleste pour cette journée que tu nous as permis de passer ensemble dans la joie de la communion des choses saintes, de ta parole les uns avec les autres. Merci Père parce que tu nous as rappelé à nouveau les responsabilités auxquelles tu nous as appelés, parce que à travers des enseignements que nous avons reçus, les rappels de ta parole, nous sommes encouragés à faire face. Et nous nous souvenons et nous voulons toujours nous rappeler que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions donc que tu veuilles continuer dans ta miséricorde d'agir en nous, autour de nous, afin que nous puissions obéir à ton ordre, faire des disciples, mais ensuite aussi les enseigner et nous enseigner à observer tout ce que tu as prescrit. Nous voulons une fois de plus te louer parce que ta loi est bonne. Oui, merci Père de nous l'avoir donnée autrefois et par ton Fils bien-aimé. Et merci de l'avoir pourvu au sacrifice expiatoire pour toutes nos transgressions. Maintenant, nous voulons aussi te demander que tu nous prépares, que tu prépare la journée de demain pour chacune des églises que nous représentons, aussi le rassemblement du Rimlisov, oui, renouveler notre frère dans ses forces physiques et spirituelles, et le préparer encore pour cette journée qui passera au milieu de nous. Te louons, Seigneur, pour la joie que tu nous donnes et le privilège que nous avons. Veuille nous garder, nous accompagner, nous garder dans ta main. Amen.
Amen. Amen. Voilà, bon retour à chacun. Encore une fois, merci à l'église de Pastac pour son accueil. Et les gâteaux, Jean-Marc.
C'est des questions concernant...